Regardons progressivement comment cette recherche métaphysique se structure. Maintenir en nous cet éveil d'admiration, ça se maintient, ça. Volontairement, on est attentif. Et on est attentif à ce qu'on fait. On a conscience intellectuellement de ce qu'on fait. Et il y a l'admiration, ça éveille notre intelligence. L'admiration n'est pas affective, elle n'est pas, je veux dire, intellectuelle, elle est affective. Il y a des gens qui admirent, il y en a qui ont beaucoup de peine d'admirer, ils sont ternes. Ça passe, une douche d'eau froide, d'eau chaude, ça n'a pas d'importance. On se demande même s'ils sont vivants, alors on les pique un peu pour voir s'ils sont vivants. Il y a un éveil. Il y a un éveil de l'intelligence. Il y a une volonté d'être éveillé d'intelligence et d'être dans l'admiration devant des choses qu'ordinairement on voit sans les voir. On fait très vite, hein. On a très vite le coutumier de ce qu'on fait. Première année, on suit l'année liturgique. Alors ça. Mais dès la seconde année, c'est la même chose. L'année liturgique se répète. Et la troisième année et la quatrième année, alors c'est la répétition. Les répétitions ne sont pas l'admiration. Il faudrait ne jamais avoir de répétition. Et c'est bien difficile. Dans l'ordre pratique, il faut avoir la répétition parce que ça va beaucoup plus vite. Hein. On sait le parcours qu'on fait. Alors au bout d'un certain temps, on le fait machinalement, on fait tout. Tandis que, au plan philosophique, il faut jamais avoir d'habitude. Il faut se réveiller tout le temps. Et mon intelligence doit se réveiller tous les jours. Elle n'a pas dormi, l'intelligence, mais elle a toléré que mon corps dorme. C'est très cru, le phénomène de dormir. Ne cherchez pas trop à comprendre, parce que vous n'allez plus dormir. Il y a un moment où il faut laisser aller le sommeil venir, sans l'effaroucher. Et si vous êtes trop éveillé, en interrogeant, vous direz, mais qu'est-ce que c'est que le sommeil ? Une petite mort pour l'intelligence. Tous les jours, vous mourrez quant à votre intelligence. Et vous n'êtes pas éveillé. Et quelquefois, ça dure toute la journée. On est un somnambule. Parce que le poids affectif est trop grand. Une souffrance trop grande qui revient dès le matin, qui vous accable. Et cette souffrance vous empêche de penser. Elle vous accapare. Donc, il y a un éveil de l'intelligence. Et ça, c'est très important. Au point de vue éducation de notre intelligence, c'est très important d'avoir l'intelligence éveillée. Pas trop, parce que au bout d'un certain temps, vous ne dormiriez plus. Alors, ça n'irait pas. Vous savez bien, au point de vue prudence, dans deux nuits suites, vous n'avez pas dormi, signal d'alarme, hein, chez le père maître, tout de suite, chez le prieur, tout de suite, je ne dors pas. Là, vous direz, maintenant, deux nuits. Parce que si vous tardez trop, ce sera d'autant plus difficile à rattraper. L'éveil de l'intelligence, l'admiration. L'admiration, c'est très bien, mais de l'admiration naît une question. S'il n'y a pas d'admiration, il n'y aura pas de question. Vous restez dans le comment. Et comment ça se fait ? J'ai fait hier, donc je refais la même chose. Et au bout d'un certain temps, je fais le comment complètement sans y penser. Tandis que je me pose la question. Alors, la grandeur d'Aristote, c'est d'avoir découvert qu'il y a 5 types d'interrogations. Vous avez les 5 sens. Je suis persuadé qu'il y a un lien avec nos 5 sens. Parce que mon intelligence est une intelligence humaine qui, dans son exercice, est dépendante du corps. Elle domine le corps, mon intelligence, mais elle est dépendante du corps. Alors, il y a comme 5 interrogations qui proviennent de mes expériences, de mes types d'expériences. Alors, il a découvert ça, et depuis, Aristote n'en a pas découvert depuis. Si vous en découvrez une, vrai, vous direz, vous viendrez en vainqueur, et il y a une 6e interrogation. En quoi ? Vous devriez vous poser la question, en quoi ? Et c'est une question très matérielle, celle-là. En quoi vous mangez quelque chose de particulier qui vous semble terriblement acide? En quoi c'est fait, ça, ce légume? En quoi? Qu'est-ce? Qu'est-ce? Parce que quand vous avez dit en quoi, il vous a répondu une plante particulière, un légume particulier, quelque chose. Et puis, en quoi, qu'est-ce ? D'où ça vient ? Et c'est pourquoi. Vous voyez, le dernier pourquoi, il est le dernier pourquoi. La finalité, en vue de quoi ? En vue de quoi ? Je dois manger cette médecine très mauvaise. En vue de quoi ? Ben, réfléchissez bien ces questions-là. Aristote les a découvertes progressivement, en cherchant, et sur le modèle de quoi ? Ah, sur le modèle de quoi ? Causalité exemplaire, vous voyez ? En quoi ? Causalité matérielle. Qu'est-ce ? Causalité formelle. D'où ça vient ? Causalité efficiente. Et pour les objets d'art, c'est très important. D'où vient ce parfum ? Ah, la marque, d'où ça vient ? C'est très important pour les objets d'art. Et puis, en vue de quoi ? C'est très personnel. Et sur le modèle de quoi ? Ah, ça, c'est pour les concours. C'est quand même curieux. Il y a ces questions, et puis il y a les questions du comment. comment cela peut-il se faire? C'est pas du tout la même question. Comment? Le pos, hein, grec, comment? Comment cela arrive? C'est très bien de savoir en quoi, mais comment le faire? Comment le fabriquer? Alors le comment, il est presque indéterminé. Ça dépend des situations dans lesquelles on se trouve. Et le comment est pour chacune de ces interrogations. En quoi? Ah, comment arriver à ça? Quand vous allez faire, enfin, pourquoi? Comment arriver à... Vous voyez, le comment vient pour la réalisation concrète des diverses interrogations. Alors, ces diverses interrogations, il faut que chacun d'entre vous, vous les découvriez. Il faut les découvrir personnellement, pour que ce ne soit pas quelque chose d'appris. Que ce soit ma découverte. Je crois que c'est la première chose qu'on doit faire au point de vue philosophique. Comprendre les cinq pourquoi. Alors, en critique, alors entre parenthèses, en critique, il faudrait voir comment ces cinq pourquoi sont attachés à mes cinq sens. Je connais par le toucher, je connais par la vue, je connais par l'ouïe, je connais par l'odorat, je connais par le goût. C'est très curieux. Et on ne fait jamais ça. Alors pourtant, puisque l'expérience est première, et les interrogations, c'est la vie de l'intelligence. Mon intelligence commence à vivre quand elle interroge. Vous voyez, l'admiration est affective. Mon intelligence commence à vivre elle-même, sa propre vie, elle est dans les interrogations. Si vous n'interrogez jamais, vous ne progressez pas. Votre intelligence progresse, avance en interrogeant. Et elle interroge de ces cinq manières. Et c'est curieux, hein ? Chacun d'entre nous, nous avons de préférence une interrogation. Si on est très attentif, si on a conscience de sa démarche philosophique, on est beaucoup plus porté à telle ou telle interrogation. En vue de quoi? Qu'est-ce? Mais les deux grandes là. En quoi? Ah, c'est beaucoup plus matériel. Quand l'intelligence interroge pour savoir en quoi cela est fait, vous découvrez ce qu'on appelle la cause matérielle. Quand vous interrogez qu'est-ce, vous découvrez la cause formelle. Quand vous demandez d'où ça vient, vous découvrez la cause efficiente. Quand vous posez en vue de quoi, vous découvrez la cause finale. Et sur le modèle de quoi, la cause exemplaire. Vous avez les cinq causalités qui sont le fruit des découvertes, de vos interrogations. Oui. Alors, si vous ne voyez pas ces interrogations, vous avez l'impression que les cinq causalités, ça vous tombe du ciel. Non, les cinq interrogations sont typiquement la forme d'une intelligence unie au corps. Et c'est pour ça qu'il faut rattacher ces interrogations à vos expériences. Vos expériences sont des expériences du toucher, où la note dominante est le toucher. la note dominante est la vue. Alors, toujours, ça passe par l'imagination qui grossit. L'imagination colle à chacune de nos expériences du toucher. Ce qui fait que, quelquefois, c'est l'imagination qui s'empare du toucher et vous croyez qu'on vous touche. Et c'est l'imaginaire. Vous croyez que vous voyez quelque chose de remarquable et vous ne voyez rien du tout. C'est l'imagination. C'est très curieux comment l'imagination brouille et veut brouiller toutes ces interrogations. Ces interrogations, c'est l'éveil de l'intelligence au-delà de l'imaginaire. Et l'imaginaire est tout le temps là. Est tout le temps là. Et l'imaginaire tend à confondre toute la diversité de ces interrogations. Et elle fait qu'il n'y a qu'une interrogation, le sujet, moi. L'imagination, c'est moi. C'est pour ça qu'on aime tellement l'imagination. C'est que c'est vous. Tandis que les sens, c'est l'autre. C'est l'autre quand vous touchez. C'est l'autre quand vous voyez. C'est l'autre quand vous goûtez. C'est l'autre quand vous sentez. Tandis qu'au contraire, l'imagination, c'est la folle du logis. L'imagination, elle sort de moi. C'est pour ça que la connaissance objective maintient l'expérience et maintient ces cinq types d'expériences divers. Et donc, ces interrogations. Alors que l'imaginaire, c'est le sujet, c'est tout ce qui vient de moi. Ça ne vient pas de l'extérieur, l'imaginaire. L'imaginaire a ceci de très particulier, c'est que c'est la première source d'immanence. Ça vient de moi. Et tout ce qui vient de moi, je l'aime d'une façon très remarquable. On doit beaucoup lutter pour dépasser l'imaginaire. Parce que quand on vit dans l'imaginaire, on vit de tout ce qui vient de nous. Et tout ce qui vient de nous, ce n'est pas l'autre, c'est nous. L'imaginaire, il a la couleur de la vue. Il a le lien avec le toucher. C'est extraordinaire, l'imaginaire. L'imaginaire pousse à la suite de mes diverses expériences, de mes diverses sensations. Les sensations sont très nettes, tu vois, peuvent être très nettes, et les expériences peuvent très bien, progressivement, perdre leur couleur originale, primitive, par l'imaginaire. L'imaginaire confond ce qui vient du toucher, ce qui vient de la vue. Là, c'est une grosse confusion. Une terrible confusion. L'imaginaire est source de toutes les confusions. Et c'est intéressant de voir toutes ces confusions par le point de vue de l'imaginaire. Vous voyez, l'imaginaire, c'est l'expérience intérieure. Hein. C'est pas les sensations. c'est ce qui est déjà saisi par vous et qui est récupéré par l'imagination. L'imagination se nourrit de toutes nos expériences extérieures pour en faire des expériences intérieures. Et c'est pour ça qu'on aime tellement l'imagination. Parce que c'est moi qui... C'est pas mon voisin qui me fait imaginer. Il est occasion d'imagination. Occasion d'imagination, parce que je veux dire, comme il est agréable d'avoir un voisin, on n'est pas seul. Comme c'est embêtant d'avoir un voisin, on n'est pas seul. Mais l'imagination va dans tous les sens. Elle est aussi bien positive que négative. C'est très curieux, ça. Alors, ça n'a plus de couleur. Et ça explique cette espèce de subjectivité où il n'y a plus rien d'objectif. Il y a des gens qui vivent dans la subjectivité. Pour eux, la seule subjectivité les intéresse. L'objectivité, ça ne les intéresse pas du tout. On est dans un âge où la subjectivité est terriblement développée. Et on a beaucoup de peine à maintenir l'objectivité. La subjectivité, c'est moi. C'est ce que nous imaginons. Et ce que nous imaginons, c'est... Ça peut nous conduire à l'intelligence. Parce que l'intelligence se sert de l'imagination. Et l'imagination reste alors liée au sens externe, et progressivement, elle est intériorisée. Vous voyez, au fond, nous voyons qu'il y a deux intériorités. La première intériorité d'imagination, la seconde intériorité de l'intelligence. Il y a deux immanences. L'imagination, c'est immanent, c'est moi. Et je me reconnais dans l'imagination. Ça vient de moi. L'imagination se sert des sens externes et les augmente terriblement. Alors, si on pousse un petit peu, parce que c'est très important de voir ça. On voit que les sensations touchent les qualités propres. L'imagination tombe dans la quantité. Et les sensibles communs par la quantité. Il y a les deux mondes, le monde de l'expérience brutale, le monde de l'expérience interne. C'est vraiment une expérience, l'imagination. Et il faut la détecter, cette expérience. Il faut arriver à comprendre ce qu'il y a d'imaginaire dans notre vie. C'est très très important, ça. C'est très important pour la philosophie et c'est très important pour ma vie divine. Vous comprenez bien. Ma vie divine, je ne la vois pas. Alors l'imagination, je suis le plus grand saint du monde. Personne ne peut rien dire. Votre sainteté, il n'y a que Dieu qui la voit. Et vous ? Et notre sainteté, si elle est réelle, elle touche le sens externe. Elle touche la réalité. Oui, l'imagination a ceci de très curieux, c'est qu'elle nous enveloppe complètement. et on peut vivre d'imaginaire. L'imagination est une zone qui nous enveloppe. On peut la dépasser. Qu'est-ce qui dépasse l'imagination ? L'intelligence. Alors voyez, avant d'arriver à l'intelligence, vous avez les sens externes. Les sens externes nourrissent l'imagination. Et l'imagination est tellement forte que quelquefois elle absorbe complètement les expériences sensibles et objectives. La mémoire se sert de l'imagination, mais elle n'est pas seulement liée à l'imagination. Il y a une mémoire plus intellectuelle et il y a une mémoire plus sensible. Parce qu'au fond, l'imagination forme des images. Et l'intelligence va se servir de ces images pour découvrir en quoi les interrogations portent sur l'expérience où l'imagination toujours là, une réalité qu'on a expérimentée. Cette réalité qu'on a expérimentée est une réalité réelle que mes sens externes ont atteint, ou une réalité purement imaginaire. Votre moi, quand vous avez l'expérience de votre moi, est-ce que vous touchez votre moi ? Vous ne pouvez que l'imaginer. Et vous ne pouvez pas dire « Regarde mon moi ». Non, et on répond « Je ne le vois pas ». Je vois ta physionomie, mais le moi, il est caché. Et vous l'atteignez comment ? Comment atteignez-vous votre moi ? Vous pouvez l'atteindre imaginativement. Et la plupart du temps, c'est ce qui arrive. Quand on dit que le moi est le premier objet, je suis. Qu'est-ce que vous avez atteint ? Est-ce que vous avez atteint votre moi spirituel ou votre moi imaginatif ? Vous voyez, la critique jouera là-dessus. Hein. Voir ce qui est imaginatif, ce qui est intelligible. En philosophie, je vois ce dynamisme de l'intelligence qui arrive à interroger à travers l'expérience. Et là, c'est quelques grandes interrogations du tiesti. Qu'est-ce que c'est ? En quoi ? Qu'est-ce ? D'où ça vient ? Ah, ça, c'est l'intelligence. L'imagination n'interroge pas. L'imagination, elle vit de ce qu'on lui a donné. Elle se nourrit de ce qu'on lui a donné. Elle développe tout l'aspect quantitatif. Mais pas purement quantitatif, hein. Parce que purement quantitatif ne peut exister que dans une pensée mathématique. Le purement quantitatif n'existe pas dans ma vie normale. Parce que je suis un être beaucoup trop sensible. Et la quantité n'intéresse pas la sensibilité. La sensibilité, dans ce qu'elle a de tout à fait propre, elle touche des qualités. Alors, on voit très bien le petit gosse qui grandit. Si on ne fait pas grande attention, son imagination va se développer d'une façon extraordinaire. Et l'éducation virtuelle, par la télévision, par le cinéma, favorise l'imaginaire et ne favorise pas le concret. De sorte que très vite, on voit qu'une civilisation s'engage vers l'imaginaire. Donc, comprenons bien que notre expérience de la réalité existante, est capitale pour ne pas se laisser emporter par l'imaginaire. L'imagination est nécessaire pour se former des images, parce que les sensations pures ne forment pas d'images. Mais l'imagination est là qui en forme. Et de façon tout à fait proche, elle aime de se former des images multiples, diverses, des images qui sont de diverses manières, se colorant, se diversifiant, de diverses manières. Mon intelligence, quand elle interroge, elle interroge à des niveaux différents. Alors, voyez, première diversité, les interrogations. Deuxième diversité, les niveaux. Alors, voyez, tout de suite, le premier niveau, c'est l'expérimentation. C'est toutes les expériences que je peux répéter. C'est un avoir sur l'expérience, l'expérimentation. Il y a des expériences que vous ne pouvez pas répéter. Un très beau coucher de soleil. Un très beau lever de soleil. Vous ne pouvez pas le répéter. Ça ne dépend pas de vous. Donc, pas d'expérimentation. Pas de répétition de ça. Ah, ce que vous pouvez répéter, c'est la manière dont brûle le bois. La manière dont brûle le fer. Vous pouvez répéter. Vous pouvez avoir dessus un avoir et être en face d'une expérimentation. Or, la métaphysique regarde ce qui est en tant qu'être. Donc, ce qui m'intéresse, c'est saisir ce qui est. En tant qu'il existe, en tant qu'il est. Pouvez-vous en avoir l'expérimentation ? Non. Parce que l'être, je ne le possède jamais. L'être, c'est quelque chose qui m'est donné. Et donc, il n'y a pas d'expérimentation au sens absolu. Qu'est-ce que vous pouvez augmenter ? Pouvez-vous augmenter l'être des réalités ? Non. Ce que vous pouvez grossir, c'est toujours la quantité. Les qualités, vous ne pouvez pas les grossir, vous ne pouvez pas les agrandir, vous ne pouvez pas les mesurer. Ah. Il y a là une distinction qui est capitale. L'être, il m'est donné. L'expérimentation, je la possède. Et l'expérimentation peut se faire d'une façon toujours plus précise grâce à des instruments qui grandissent la réalité et me la rendent plus présent. Et qu'est-ce que j'augmente de la réalité ? Dès que je me sers d'un instrument, je déséquilibre la réalité pour pouvoir la posséder. Je fais que la relation quantité et qualité sensible n'est plus la même. Forcément, j'ai augmenté la quantité et je n'ai pas augmenté la qualité. La qualité, elle est toujours la même. Et elle ne va plus avoir le même caractère en augmentant énormément la quantité. La qualité reste la même. Oui, c'est ça qui est très important à voir, que je ne saisis plus l'être de la chose de la même manière. Je la déforme. Pour pouvoir la posséder, je grandis sa qualité. Et je grossis sa quantité. Mais sa qualité, elle reste la même. Ceci est très important pour comprendre la différence de l'expérimentation scientifique et l'expérience philosophique. Il y a là quelque chose qui est très très important à voir. Le savant, il est dans ses expérimentations. C'est une expérience élaborée, très élaborée, son expérimentation. C'est la possession qu'on a sur ce qu'on expérimente. On l'expérimente grâce à une vision très particulière de la réalité. Et je peux noter la manière dont je déforme la réalité pour mieux la connaître, pour mieux la posséder. Et je la déforme. C'est très important de voir ça et voir où joue cette déformation et comment cette déformation joue. La différence entre l'expérience toute simple, du toucher, de la vision, de la déglutition, de l'audition, et puis l'expérimentation. Alors, je crois que ça, c'est très important. Parce que seule l'expérience saisit la réalité existante. L'expérimentation ne saisit plus la réalité existante comme elle est. Elle est changée. Elle est changée pour qu'on puisse la posséder. Pour qu'on puisse avoir un regard sur elle beaucoup plus possessif. On possède la réalité qu'on expérimente. elle existe, cette réalité, mais son existence est de plus en plus lointaine. Plus les instruments grossissent, grandissent la quantité, plus l'expérience de l'être est loin. Parce que elle n'existe pas telle que je la vois. Elle existe autrement, d'une autre manière. Ceci est très très important pour comprendre la différence du regard philosophique et du regard scientifique. Le savant aura les mêmes interrogations. En quoi ? Et en quoi il aura beaucoup plus de renseignements que la philosophie ? Qu'est-ce ? Ah, qu'est-ce ? Il ne s'intéresse pas tellement, parce que ce qu'il possède, c'est la réalité expérimentée de telle façon, et non pas la réalité telle qu'elle est. Elle est déformée, tout de suite. Donc, il ne la possède pas. Mais ça lui est égal si, en transformant la réalité de telle façon, il peut la posséder. Et l'ayant possédée de cette façon, il peut la transformer. Essayer de saisir des rapports différents de cette réalité transformée avec une autre réalité transformée. Mais les interrogations sont les mêmes. C'est curieux. Le savant a exactement les mêmes. Mais le philosophe garde ses expériences à l'égard des réalités telles qu'elles sont, parce que ce qui interroge le philosophe, c'est l'homme. Il laissera à la science une connaissance très spéciale vis-à-vis des végétaux, des plantes, vis-à-vis de la matière, vis-à-vis des animaux. Mais ce qui l'intéresse, ce philosophe, c'est l'homme. Donc il passe du « ceci est » à « je suis ». Vous comprenez ça ? C'est capital de comprendre que le philosophe s'intéresse avant tout à l'homme. Et c'est pour ça qu'il est si rare que la réalité ne soit pas changée. Vous voyez, dès qu'on change la réalité, on ne voit plus le tout. On voit beaucoup mieux la partie. Et c'est pour ça que les sciences se particularisent et ne regardent plus le tout. Ça, c'est très net et qu'on a la difficulté aujourd'hui, quand il s'agit justement de la médecine qui regarde la personne, on a des savants qui regardent telle chose particulière, oubliant que cette partie fait partie d'un tout. Ils ne l'oublient pas, ils le savent, mais la partie les intéresse plus. Parce qu'ils ont une connaissance de la partie beaucoup plus poussée, quantitativement. Mais qualitativement, elle fait partie d'un tout. Le philosophe s'intéresse avant tout à l'homme. Pourquoi ? Parce que il cherche ce qu'est la réalité en tant que réalité. Or, la réalité en tant que réalité est la plus parfaitement réalisée dans l'homme. Elle est réalisée beaucoup moins parfaitement dans l'animal. Chez les animaux, ça l'intéresse, parce que, d'une certaine manière, l'homme est la synthèse de toute la vie animale, de toute la vie végétale. D'une certaine manière, ce que les anciens avaient très fort le sens, que l'homme est un petit univers. Et donc, il fait une synthèse très curieuse de toutes les réalités inférieures. Mais encore une fois, si j'étudie ces réalités en tant qu'elles sont semblables aux animaux, ce qu'il y a de semblable chez l'homme, chez l'animal, c'est par une expérimentation. Et par cette expérimentation, je saisis avant tout sa quantité. Et le philosophe sera d'autant plus attentif que la science s'est emparée de tous les vivants et donc de l'homme, oubliant ce qu'il y a de plus caractéristique dans l'homme, l'âme. Et on regardera le corps de l'homme parallèlement au corps de l'animal, sans voir que ce qui caractérise l'homme et ce qui lui donne son caractère propre, c'est justement son âme. Et c'est là le problème très important pour nous. Je ne peux saisir l'âme que si je suis en philosophie pour saisir l'être. L'être se réalise dans l'âme d'une manière plus parfaite que dans le corps. Et donc le philosophe sera plus attentif à l'âme qu'au corps. Et quelquefois, il sera tellement attentif à l'âme qu'il ne verra plus que cet aspect subjectif, l'aspect du sujet, donc uniquement la vie de l'âme, sans regarder le point de vue de la vie du corps. Le philosophe devra, lui, au contraire, toujours comprendre la vie de l'âme par la vie intellectuelle, sans oublier le corps. Il reviendra toujours là-dessus, parce que le corps fait que l'expérience que l'homme a de lui et des autres est à la fois intérieur et extérieur. Intérieur, la subjectivité. Il y a quelque chose dans l'homme que je ne peux pas saisir dans la pure objectivité. Et ce quelque chose qui est dans l'homme que je ne peux pas saisir dans la pure objectivité, c'est le principal. D'où la tentation permanente d'étudier l'homme d'une façon subjective. Puisque là, je saisis ce qu'il y a de propre à l'âme. Mais si je ne saisis que cela, je ne saisis pas l'homme parfait qui informe le corps par son âme et qui a contact réel avec les réalités physiques qui l'entourent. voyez, il est intéressant au point de vue philosophique de voir que nous avons une inclinaison, une inclination très forte de tout le temps prendre la subjectivité première, parce que c'est là où je saisis ce qu'il y a de propre à l'homme. Mais en faisant ça, je quitte la réalité. C'est que dans la réalité, l'homme n'existe que dans son corps. L'homme existe grâce à son corps. L'âme de l'homme ne peut pas être saisie comme séparée. Je sais qu'un jour, la mort fera que mon âme sera séparée. Mais tant que je suis sur terre, or je fais la philosophie étant sur terre, mon âme, je la saisis intrinsèquement dans une introspection sur moi-même, que je suis seul à saisir, mais mon âme existe dans mon corps. Et je suis obligé de regarder ce point de vue-là grâce à l'expérience. Je n'ai pas, premièrement, une expérience intérieure. J'ai en premier lieu l'expérience extérieure. Puisque là, la subjectivité n'est pas première, mais l'aspect objectif. Donc, l'expérience philosophique tiendra toujours compte de ça. Je ne peux pas saisir l'être d'une façon purement intérieure. L'être sera toujours lié. Ma saisie de l'être sera toujours liée à la saisie de mon corps. Donc, la philosophie doit commencer par une expérience externe, tout en reconnaissant que l'expérience interne a une valeur unique qui ne peut pas s'expliquer par l'expérience externe. J'aurai donc en philosophie toujours ce double jeu d'expérience interne et externe. Et je ne peux pas choisir uniquement l'expérience interne, je suis, et uniquement l'expérience externe. C'est la synthèse des deux. Et comme c'est la synthèse des deux, vous aurez nécessairement des philosophies plus intérieures, des philosophies plus externes. L'expérience externe joue un rôle plus important. Et les philosophies, et alors, dépendent plus de la science biologiques seront beaucoup plus tentés de connaître le corps de l'homme et de tout voir à partir du corps de l'homme. Les philosophies idéalistes verront beaucoup plus à partir de l'expérience interne, ne s'occupant pas ou peu des expériences externes. Vous avez donc ce problème philosophique dès le point de départ, hein, tout de suite. Je pars de l'expérience, oh, je sais que mon expérience est double. Et je sais que mon expérience objective peut se compléter par une expérimentation, mais que les conclusions d'expérimentation risquent tout le temps de fausser mon regard.